Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.9 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». L'émission de « Votre santé, un trésor » d'aujourd'hui va s'intéresser encore une fois à l'histoire de la médecine, mais une histoire lointaine et qui s'est déroulée au cœur de notre cité, mais dans d'autres cités, la médecine des gladiateurs, avec M. Brice Lopez, qui va nous l'évoquer. Bonjour à vous, M. Lopez.
Bonjour.
Brice Lopez est spécialiste des sports historiques. Il a écrit deux ouvrages reconnus sur les gladiateurs. Gladiateurs des sources à l'expérimentation, édition Errance en 2004, et Gladiateurs Acta, édition 2021. Donc, vous êtes présenté dans une précédente édition, dans une précédente émission. Donc, maintenant, on vous connaît bien. Mais donc, nous allons parler de la gladiature. Pouvez-vous nous présenter et nous dire quelle est votre activité au niveau de la gladiature?
Alors, pour les gladiateurs, depuis 1993, je pratique l'expérimentation. Donc, l'idée, c'est de retrouver les gestes liés aux panoplies de gladiateurs du Haut Empire, concentré sur les panoplies qui représentent, on va dire, 90% des sources, c'est-à-dire les armures principales des gladiateurs connus sur la période du Haut Empire, 1er siècle, 2e, 3e siècle.
Quand vous dites panoplie, expliquez-nous.
Alors, la panoplie, c'est l'ensemble des équipements du gladiateur. Son casque, ses protections, son arme, l'ensemble. Panoplie.
Le bouclier,
s'il en a besoin. Il va y avoir l'ensemble des protections, des armes et des armures du gladiateur.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au gladiateur? Bon, vous êtes d'art, évidemment. Il y a l'amphithéâtre à Arles où il y a eu des combats de gladiateurs. Mais qu'est-ce qui a fait... Tous les arlésiens ne sont pas spécialistes de la gladiature. Qu'est-ce qui vous a... Et puis surtout du côté expérimental et pratique de la gladiature, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la gladiature? Quel a été ce parcours?
En fait, quand j'ai rencontré Dario Battaglia en 1993, qui est chercheur italien du centre de recherche Ars Nemicandi à Milan, il cherchait des cobayes pour faire l'expérimentation des sports de combat des Jeux Olympiques antiques, boxe, lutte et pancrace. À l'époque, moi, j'étais sportif de haut niveau en jiu-jitsu. Je suis allé travailler avec lui sur ses sports des Jeux Olympiques et de fil en aiguille, dans le courant des années 90, en cherchant des sources des sources archéologiques sur les sportifs, on a trouvé beaucoup de sources sur les gladiateurs.
D'accord.
Et du coup, de fil en aiguille, des Jeux Olympiques, boxe, lutte et pancrace, on est passé, on a complété avec la gladiature.
Alors, d'abord, la boxe romaine, donc, et pancrace, dites-nous en 32 mots.
La boxe dans l'Antiquité, qu'on appelle pugilatus caestis, c'est une forme de boxe anglaise, on va dire. On ne frappe qu'avec les poings. Les poings sont protégés par des bandages métacarpiens qui sont en cuir et qui peuvent être soit souples, soit durs. C'est ce que nous disent les textes et ce que nous disent les documents archéologiques découverts, notamment à Vindolanda. Et on frappe sur tout le corps. Voilà, devant, derrière, comme on veut.
Même les coups bas.
Même les coups bas. On peut frapper sur tout le corps.
Évidemment, qu'avec les mains.
Qu'avec les mains. Hein. Évidemment, la tête étant la cible quand même principale. La lutte, c'est une lutte qu'on appelle ortépale, qui est une lutte debout. On fait uniquement debout, qui se rapproche plus ou moins du sumotori, mais avec un espace de combat plus grand et donc
Il n'y a pas de lutte gréco-romaine, comme on dit, où les gens se...
Non, il n'y a pas la lutte
gréco-romaine. C'est du face-à-face.
La lutte gréco-romaine, le terme gréco-romain est un terme très récent qui a été inventé pour les Jeux Olympiques modernes par Coubertin et ses amis pour se distinguer de ce qu'on appelait à l'époque au 19e la lutte française hein, et pour pouvoir internationaliser la lutte olympique. Donc la lutte antique et puis le pancrace, c'est, comme le disait Philostrate, l'union d'une boxe et d'une lutte imparfaite. Donc en gros, on va à la fois boxer, on va à la fois lutter, mais là, on va boxer avec les poings, les pieds, les coudes, les genoux, et on va lutter debout et au sol. Et donc c'est une forme de complète, on pourrait rapprocher du MMA aujourd'hui.
Voilà, justement, ça venait 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de la MMA actuelle?
Alors moi, j'ai fait des combats de MMA à l'époque où ça ne s'appelait pas MMA en Allemagne, dans une ligue en Allemagne, ça s'appelait Free Fight à l'époque, et j'ai été interrogé par la Commission européenne pour la légalisation du MMA, et je suis pour, et je trouve que c'est une très bonne pratique, à condition, et c'est comme ça que c'est fait en France, à condition que ça soit parfaitement encadré, avec des entraîneurs formés, très compétents, et dont l'objectif est avant tout pédagogique et pas forcément compétitif à outrance. C'est-à-dire et en France, c'est ce qu'on retrouve. Ici, dans la région, à Beaucaire ou à Nîmes, on a des clubs très, très performants de MMA, avec des gens de très, très grande qualité et qui sont dans le milieu depuis l'origine du free fight et du combat MMA en France et en Europe, et qui ont participé à sa régulation et qui font les choses de façon très précise, très organisée, très structurée, avec pas de risque, avec beaucoup de contrôles médicaux, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, le MMA, comme tous les sports de compétition.
C'est pas de la baston pour la baston.
Quoi. Non, c'est pas de la baston pour de la baston.
Bon, alors, faut fermer une autre parenthèse, mais c'est intéressant. Et alors, revenons à la gladiature. Donc, vous avez été en Italie, vous avez... Et quel était votre
Donc, mon travail était de trouver les gestes, comment on combat avec un trident, comment on utilise le filet, comment on utilise un bouclier, comment on utilise une dague, pourquoi tel type de dague, qu'est-ce que ça donne d'avoir une dague courbe ou pas, quelles entailles on va pouvoir réaliser, quels gestes vont être découverts sur les sources, etc.
Donc, il y avait quand même des blessures. Les armes étaient létales, enfin, je veux dire, c'était des armes pas émoussées comme actuellement, c'était des armes qui pouvaient tuer.
Oui, dans l'Antiquité, bien sûr.
On est dans l'Antiquité.
Si on est dans l'Antiquité, on a effectivement des armes qui pouvaient tuer. Donc l'objectif n'était pas de tuer, c'est-à-dire que le gladiateur ne doit pas tuer son adversaire, il doit uniquement le blesser. Donc déjà, on ne frappe pas des stocks. Alors, ça peut arriver, mais par accident.
Rappelez-nous ce qu'est
les stocks, c'est la pointe.
Oui.
Donc la pointe, frapper de pointe avec une arme, une dague, une épée ou un fleuret, etc., c'est le plus dangereux parce que on ne sait jamais jusqu'où on va pénétrer. Et donc on peut toucher n'importe quel organe vital sans même le vouloir. Il suffit que l'autre avance un peu et il enfonce l'arme de 2 ou 3 cm ou 4 cm de plus. Donc les stocks n'est pas interdite en soi, mais les gladiateurs font très attention de ne pas la faire, puisqu'ils pourraient tuer sans le vouloir leur partenaire. Et ça, ils n'ont pas le droit, et ça les mettrait à mort eux-mêmes. Donc du coup, ils vont avoir une pratique gestuelle très particulière, volontairement de ce qu'on appelle l'entaille, c'est-à-dire venir poser l'arme sur la zone que l'on veut tailler et tirer. Et pour faire la blessure. Et c'est ça qui est vraiment très spécifique à la gladiature, c'est que ce n'est pas un sport de compétition et on pratique ça entre deux personnes qui se connaissent, qui vivent ensemble, qui s'entraînent ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on se met en danger vital face à l'autre alors qu'on n'a pas le droit de tuer puisqu'on est esclave, on n'a pas ce droit-là. Mmh. Donc du coup, on doit avoir deux personnes qui s'entraînent parfaitement ensemble, qui vont jusqu'au bout et qui versent leur sang, mais qui ne se tue pas pendant le combat. Et contrairement au développement, quand on fait le parallèle au développement des autres sports de combat de ce type-là, si on prend la joute au Moyen-Âge, par exemple, on ne va pas protéger les zones que l'on va toucher. En kendo, on protège les zones que l'on va toucher. Petit à petit, quand on regarde l'évolution du kendo depuis le kenjutsu japonais d'origine, on protège les zones qu'on va toucher. Là, en gladiature, on protège des zones qui sont létales et pour lesquelles on ne peut rien faire, la tête, par exemple, la gorge, les carotides, etc. Et on laisse à disposition du gladiateur, des zones très précises, le dos, les côtés, les cuisses, où ça ne va pas être létal et où on va concentrer les attaques qui sont des entailles. Et Galien, on en a déjà parlé sur une autre émission, Galien est très intéressant par rapport à ça parce que quand il parle des gladiateurs, il parle que d'entailles, uniquement. Et il distingue deux types d'entailles. Galien, il distingue les entailles horizontales et les entailles qu'il appelle transversales ou diagonales, on va dire, en fait, qui sont sur un angle différent. C'est-à-dire ces entailles qui vont prendre le muscle non pas sur l'horizontale, mais le muscle, la chair, mais en diagonale. Et il distingue ces deux types d'entailles parce que c'est celle qu'il voit chez les gladiateurs de Pergame qui les soignent.
Il était médecin.
À Pergame, en Asie mineure, en Turquie actuelle, et il va les soigner de façon différente. Il va proposer de les soigner de façon différente, de les recoudre de façon différente, et il propose dans son ouvrage deux manières. Et c'est très intéressant qu'il parle de ça, et il dit que, par exemple, les horizontales, il suffit des bandages. Parce qu'on les bande, on met les deux bords à bord, et ça va. Quand c'est en diagonale, ça va être plus compliqué, il va falloir recoudre, il faut aller même recoudre, il parle de tendons, voilà, je ne sais pas si le terme de la traduction est vraiment juste, etc. Mais dans tous les cas, il parle vraiment de quelque chose de plus complexe et dont il se fait un peu le spécialiste, et il explique que c'est lui le premier à travailler comme ça, à dégager les chairs. Il parle de dégager les chairs pour aller jusqu'au tendon, pour pouvoir recoudre correctement, parce que, voilà. Et donc, on voit bien ces textes, notamment de Galien, on a d'autres auteurs qui en parlent, et on voit bien les sources archéologiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces sources archéologiques, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit à la fois l'horizontal et le transversal, le diagonal, on pourrait dire, sur le muscle, quelle que soit la partie qui soit entaillée.
D'accord. Alors, on est loin du tout, on est loin des films péplum qu'on voit actuellement, où c'est un massacre avec beaucoup d'hémoglobine. C'est absolument, c'est pas du tout ça.
De toute façon, déjà, il faudrait qu'on comprenne bien que trancher un membre avec une dague, c'est plus que difficile. Avec une simple dague, c'est impossible.
C'est impossible.
Parce qu'on va pas trancher l'os, on va pas trancher. Enfin, je veux dire, quand on voit dans les films ou dans les séries des gars qui avec une dague romaine, un glaive romain, vont réussir à trancher une cuisse. Vous êtes médecin, vous savez qu'il en faut un peu plus. Donc, il faut bien penser, dire à nos auditeurs qu'on n'est pas du tout sur ça et que les gladiateurs, certes, font couler le sang. Hein, je nie pas la violence.
Il fallait que le gladiateur saigne quand même.
Mais bien sûr, le gladiateur saigne. Et c'est pour ça qu'il y a des médecins dans les écoles de gladiateurs parce que, ou dans les amphithéâtres. D'ailleurs, on ne sait pas, Galien, s'il était médecin de l'école de Pergame ou de l'amphithéâtre de Pergame. Mais bon, peu importe, hein, ça revient au même. Il soigne un grand nombre de médecins, de gladiateurs pendant plusieurs années. Et donc, il voit toutes ces blessures.
Et à l'entraînement, il s'entraînait avec des armes aussi qui étaient aiguisées ou...
Alors, vraisemblablement, ce qu'on a comme texte sur ça, c'est qu'on est sur des armes en bois. L'entraînement se fait avec des armes en bois. Maintenant... Je pense qu'il devait quand même y avoir des armes tranchantes pour que l'athlète de l'époque...
Au niveau du poids, tout ça, ouais.
Bah, le poids, on peut simuler. Louer, ouais. Mais c'est savoir ce que ça fait. Moi, je fais un test avec mes élèves, puisque j'ai un club ici à Nîmes, hein, ouais. De gladiateurs. Hein, tous les mardis, si vous voulez devenir gladiateur, vous pouvez au gymnase des Bénédictins.
Alors, dites-nous, vous avez un club de gladiature à Nîmes.
Voilà, j'ai un club de gladiature à Nîmes.
Il s'appelle comment ?
Le Pentathlon Club Gardois, puisqu'on fait partie de la Fédération Française de Pentathlon Moderne.
Oui, vous êtes combien d'adhérents ?
Là, une petite vingtaine, une quinzaine.
Donc, ça va grandir.
Bah, je l'espère.
Donc, c'est vous qui vous en occupez,
voilà,
qui
animez ? Voilà, c'est ça, on entraîne et je fais un test.
Donc, vous êtes arlésien et nîmois à la fois, quoi.
Oui, je suis arlésien et nîmois à la fois. Enfin, voilà, c'est... Moi, cette opposition... Non, puis cette opposition Arles-Nîmes qui date de l'Antiquité.
Donc, ça, c'est la tauromachie.
Oui, je pense qu'on est sur un autre niveau. Mais dans les clubs que j'anime ou même dans les stages, parfois, je leur amène des armes tranchantes pour faire des tests, pour qu'ils voient ce que ça fait, les gestes que je leur apprends avec des armes en bois ou des armes non tranchantes, qu'ils voient ce que ça fait sur un gel balistique ou quelque chose, et un objet, pour voir ce que ça donne le côté tranchant. Et c'est très intéressant. Ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un oui, sourd pour trancher.
Quand c'est
aiguisé, le geste, s'il est précis, rapide, tout petit, on fait l'entaille, le sang coule, et c'est ce que demande le public.
En fait, le but du combat gladiateur, c'est que le sang coule.
Exactement.
C'est ça, hein ?
C'est exactement ça. Il faut que le sang coule, que l'offrande soit faite.
Alors, c'est une question un peu qui revient, mais je voulais vous la poser. Peut-on considérer que les combats de gladiateurs étaient de vrais combats ? Mais on vient d'y répondre quand même, puisque le sang coule, donc c'était des combats qui pouvaient être mortels, on a dit que non. Ou bien, un peu, comme on dit en boxe, un peu du chiquier, c'était préparé. Est-ce qu'ils s'étaient préparés ou ils se battaient spontanément ?
Alors, ils se battent spontanément, mais ils se préparent.
D'accord.
Je m'explique. Je l'ai déjà dit, les deux combattants sont de la même école.
Donc ils
s'entraînent ensemble. Donc, ils se connaissent. Ils se font parfaitement confiance. Et les gestes de la gladiature sont extrêmement simples. La gladiature, on l'apprend en 5 minutes. Ce qui est compliqué dans la gladiature, ce n'est pas le geste technique de l'entaille. Il y en a deux ou trois différentes. C'est mettre tout ça en action, avec quelqu'un qui bouge, qui s'oppose, qui met son casque, qui met son bouclier pour éviter la touche, et d'aller quand même toucher, et ça, sans le tuer. Vous imaginez le contrôle de soi qu'il faut pour le faire correctement. Et donc, les deux gladiateurs s'entraînent ensemble, c'est une forme de préparation, mais ils ne font pas de chorégraphie. C'est-à-dire, ils ne disent pas, moi je vais t'attaquer là, tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Non, ils s'entraînent, et le fait qu'on ait limité le nombre de gestes techniques, limité les zones, et empêché de tuer l'autre, on va créer un spectacle parce qu'il va y avoir beaucoup de physique. La gladiature, c'est avant tout un travail physique au service de quelques gestes techniques.
Alors, je vous propose une trêve musicale avec une musique de circonstance, l'entrée des gladiateurs de Julius Fuschi. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui M. Brice Lopez qui nous parle de la médecine des gladiateurs. Vous avez étudié minutieusement les lésions subies par les gladiateurs. Pouvez-vous nous parler et nous parler de votre travail? Parce que vous nous avez dit que vous l'avez étudié, mais comment?
Alors, on étudie la gladiature par l'archéologie expérimentale, donc par des tests scientifiques qui permettent de comprendre ça, notamment, je le disais tout à l'heure, avec des armes tranchantes qui nous permettent de voir quel type d'entailles et comment se font les entailles.
Alors, vous les faites, par exemple, sur
des mannequins avec gel balistique ou des éléments permettant de symboliser un muscle, une épaule, par exemple. D'accord. J'ai créé des mannequins. Et on voit le type d'entaille et on peut comparer ça à ce qu'on voit sur les sources iconographiques, ce qu'on voit sur les gestes représenté sur les sources, parce qu'on a un nombre incroyable de sources archéologiques, d'images archéologiques, mosaïques,
fresques. Quand vous dites sources, c'est les images, des statues, des mosaïques.
Exactement.
Il faut aller voir quand même
à Naples, musée de la Romanité.
Musée de la Romanité aussi. Mais à Naples, ce qu'on a trouvé à Pompéi, c'est exceptionnel.
On a tout un ensemble d'objets archéologiques partout en Europe. Et ces représentations, que ce soit les mosaïques ou les peintures murales, la plupart du temps, nous montrent des blessures. Et elles les montrent de façon très précise. À Bordeaux, on a un bas-relief qui montre précisément la zone d'entrée de l'arme et la zone de sortie. On voit la zone d'entrée large, épaisse, et la zone de sortie au moment où le gladiateur tire l'entaille, qui est tout affinée. Et c'est sur 2-3 cm, pas plus.
Donc, le peintre,
donc en fait, le sculpteur, là, a fait quelque chose. C'est un bas-relief, pierre sculptée. Oui. C'est extrêmement précis. Et on voit que ce n'est pas une entaille de 30 cm.
Donc, la blessure a de l'importance.
La blessure a de l'importance parce qu'elle nous donne une indication sur le geste qui est réalisé. Si c'était un geste de pénétration avec la pointe, on aurait quelque chose de perforant qu'on connaît en traumatologie. Voilà. Là, on a quelque chose qui est de la forme de l'entaille, donc une coupure, et on voit bien la zone d'entrée, la zone de sortie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça a été très précis. Et donc, mon travail, c'était de faire ça et aussi de mesurer ce que mes néo-gladiateurs... Donc, moi, je fais ça depuis les années 90. Hein. J'ai entraîné des combattants à la fois professionnels, c'est-à-dire dont le métier, c'est de faire des démonstrations de gladiateurs. J'en ai encore aujourd'hui chez ACTA. Et aussi des amateurs. Donc, c'est des dizaines de milliers de combats qu'on a fait.
Donc, vous avez une expérience.
Donc, on a un recul aujourd'hui, après 30 ans, de voir les blessures des néo-gladiateurs. Évidemment, on n'a pas d'armes tranchantes. Donc, on a quelques coupures, mais qui dépendent plutôt d'accidents, d'erreurs, de manipulations. Mais par contre, on a des traumatismes ailleurs. Ceux qu'on ne voit pas sur les sources.
Oui.
Entorses, rupture des ligaments, etc. Et on voit où la répétition des gestes donne de la traumatologie.
Oui,
et c'est très intéressant, par exemple, de voir que les genoux, comme dans tous les sports de combat, les ligaments croisés. On a été plusieurs à être opérés des ligaments croisés et avoir eu des entorses aux genoux chez ACTA depuis ces 30 ans. Mais aussi l'épaule. L'épaule droite, avec l'arme qui répète toujours les mêmes gestes. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours les mêmes qui viennent par-dessus l'épaule avec une rotation en fin de mouvement. Et on a des problématiques de la coiffe des rotateurs qui peuvent être assimilées à des maçons, par exemple, qui vont faire toujours les mêmes gestes, qui vont poser avec des ruptures de la coiffe des rotateurs.
On rappelle que la coiffe de rotateur, c'est un ensemble de muscles qui se trouve au-dessus de l'omoplate et qui joue dans le mouvement de l'épaule et qui peut se fendre. Alors, normalement, c'est chez les professionnels, comme les maçons, et chez les personnes âgées, par calcification ou par usure musculaire, par vieillissement musculaire.
C'est ça, et on retrouve ces douleurs et ces problématiques de l'épaule avec nécessité de passer par la physiothérapie, la rééducation, etc., du renforcement spécifique, parce que si on ne le fait pas, ça peut être très...
Ah oui, une coiffe de rotateur qui n'est pas soignée, ça fait mal et puis ça handicape. Alors, vous y avez déjà répondu, mais quand même, j'insiste, est-ce que la mort existe dans l'arène des gladiateurs? Vous avez dit, elle est accidentelle. Mais alors, donc, si jamais un gladiateur meurt, ou on le fait mourir,
ce que j'ai dit, elle est accidentelle pendant le combat.
Oui.
C'est-à-dire que les gladiateurs, pendant l'affrontement, doivent se blesser et se soumettre. On parle de missio. Même quand le combat est sinémissionné, c'est-à-dire sans retraite, ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'entretuer. Ça veut dire que à la fin du combat, à la fin, quand un aura perdu, parce qu'on a la règle, celui qui va au sol perd le combat. Même oui, si oui. c'est un combat non compétitif, pour que le public ait l'idée, un peu comme au catch, ait oui. l'idée que c'est quand même un affrontement, celui qui tombe ou qui abandonne,
il se soumet,
il perd. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur les sources archéologiques oui. tout un tas de gladiateurs poser le genou au sol et lever le doigt.
Oui.
Et ils ont abandonné. Donc, dans les combats ciné-missionnés, s'il abandonne, il doit demander la mort. Et c'est là où le producteur du spectacle va intervenir et donner la vie ou la mort. Et là, il peut être mis à mort.
D'accord.
Donc, le gladiateur peut mourir de ses blessures, parce que les blessures...
Si il y a une blessure importante... Une staphylade importante avec une artère qui...
Bien sûr. On a même un terme latin, causarius, qui désigne des gladiateurs qui vont être renvoyés parce qu'ils ne peuvent plus combattre à cause de leurs blessures. Ils sont mis en retraite prématurée.
Oui.
Et en gros, c'est vraiment les gladiateurs...
Oui,
Et donc, on a des blessures pendant le combat qui peuvent être mortelles ou handicapantes. Et puis, on peut avoir à la fin du combat, quand c'est un combat ciné-missionné, le producteur du spectacle qui donne la mort. Mais cette situation-là est...
Exceptionnelle,
rare, entre guillemets.
Et comment on les mettait à mort? Est-ce qu'on le sait?
Non, on ne le sait pas vraiment. Vraisemblablement avec une arme plantée à l'intérieur de la gorge vers carotide ou cœur, on ne sait pas très bien.
Un genre d'égorgement, quoi.
Une forme d'égorgement. Et c'est pour ça qu'on a ce fameux terme yugula, même si on ne voit pas réellement sur les sources un égorgement.
Alors, ces gladiateurs blessés dont on vient de parler, qui ne pouvaient plus combattre, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Ben, ces gladiateurs blessés, ils ont, pendant leur carrière, amassé des petites fortunes. Puisque lors de leur engagement, on les paye et à chaque combat, ils sont loués et une part de cette location qui leur revient.
Voilà, parce qu'il y a un contrat entre... Tout le monde pense que c'est des esclaves, tout ça. Alors, bon, Spartacus était un esclave. En fait. Mais les gladiateurs dont on parle, c'était des contractuels. Ils passaient contrat, ils rentraient dans une école, ils s'entraînaient. On leur apprenait.
Exactement.
Ça devait être sûrement secret, il devait y avoir des rites secrets, etc. C'est ce qui m'intéresse aussi. Mais ça, bon, on n'a pas de source. Et ils avaient un contrat, donc ils avaient beaucoup d'argent, mais ils ne pouvaient pas faire d'autre chose. Hein.
C'est ça. En fait, ils ont...
Une classe à part, quoi.
C'est une classe à part. Ils ont un contrat, l'octoramentum, un engagement qu'on connaît par différents auteurs antiques qui nous l'ont signalé, ce serment des gladiateurs. Et donc, ils gagnent de l'argent. On a sur la table d'Italica, par exemple, un document législatif romain, le montant de ce qu'ils gagnent. Et donc, quand ils arrêtent leur carrière ou qu'ils sont blessés, etc., ils partent avec leur argent.
Voilà, oui, ils peuvent plus. Le contrat est bien plus bas.
Voilà.
De fait, c'est pas la faute, donc il n'y a pas de problème juridique.
Tout a bien été organisé par l'État romain sous le Haut Empire. Tout est légalisé, ouais, organisé, structuré.
Si un ligament croisé qui casse, à l'époque, on ne faisait pas d'intervention par célioscopie, donc ils ne pouvaient plus combattre. Donc à ce moment-là, le contrat a été rompu de fait.
Voilà.
Il partait avec son pécule, puis il faisait autre chose.
Exactement.
L'agriculture, etc. Alors, on a dit avec Galien tout, mais qui soignait les gladiateurs? Est-ce, je pense qu'il n'y avait pas, des médecins partout. Est-ce qu'il y avait des gladiateurs soignants et
Alors, moi, je ne serais pas aussi formel que vous pour dire qu'il n'y avait pas des médecins partout.
Il y avait des médecins partout.
Il y a vraiment des médecins.
Pas comme maintenant, quoi.
Je sais, il peut y avoir des déserts médicaux. Je ne veux pas dire que voilà, il peut y avoir des endroits où. Mais il y a vraiment énormément de médecins qui ont œuvré chez les gladiateurs. Parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent et parce que c'est un bon moyen d'apprendre. Outre Galien, on a un médecin qui est moins connu du grand public, qui s'appelle Largus Scribonius, et qui a laissé 270 prescriptions, je crois. Et lui aussi, il parle des gladiateurs, des différents bandages et des différentes pratiques qu'il a pour remplacer les emplâtres anciens.
Parce qu'avec ce type de blessure, il y a d'abord réparé la blessure, donc il y a le côté musculaire, bon, ça, le côté dermato, donc ça va, le côté musculaire, ça va encore. Horizontal et horizontal, et le profil, c'est différent pour les coudre. Il y a les bandages, donc ça, c'est très... On n'en fait plus, mais le côté bandage, c'est très important. Moi, à l'armée, on a appris les bandages alors qu'on n'en faisait plus. Et puis, il y a tout le soin de la... Donc, il n'y a pas d'antibiotiques, donc ça risquait de s'infecter. Donc ça, c'est là où l'art de guérir, c'est important.
Mais en fait, il faut bien imaginer que le propriétaire de l'école, le laniste, qui a investi des milliers de sesterces dans ses gladiateurs, il ne veut pas les perdre à la première entaille. Donc, pour lui, c'est extrêmement important. Mais comme un club de foot aujourd'hui, d'avoir un médecin ou différents types de médecins avec qui il a un contrat, soit parce qu'il est directement à l'intérieur de l'école, ou parce que dans la cité où il est, il l'utilise pour ses gladiateurs, pour soigner ses gladiateurs. Donc, je pense que les gladiateurs font partie, dans la population antique, des gens les plus suivis d'un point de vue médical.
Il y a les plaies qui vous prennent tout de suite en charge. Puis, il y a des bandages pour que ça tienne. Il y a le soin immédiat de non-infection, de suppuration, etc., etc.
L'alimentation, le massage.
Avec l'alimentation, il ne faut pas que le reste... Et puis, il y a la rééducation.
Les massages, etc.
Et puis, il y a un côté de rééducation. Parce que quelqu'un qui est blessé, qui a une staphylate de 20 cm, il va falloir qu'il se rééduque. Surtout s'il veut être, performant. Eh bien, Monsieur Lopez, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre passion aussi pour la médecine antique, celle des gladiateurs. Merci infiniment à vous.
Merci beaucoup.
J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Brice Lopez de nous citer des livres sur cette période. On a cité deux de ces livres. Est-ce que vous en avez d'autres?
Vous pouvez lire un livre de Véronique Boudon-Milleux, qui est la grande spécialiste de Galien et qui a compilé ses ouvrages, les plus connus et les moins connus, et qui est un peu la biographe officielle de Galien.
Et pour toute la métier de Galien ou que pour la gladiature?
Non, c'est pour toute l'activité médicale de Galien.
Et c'est
très intéressant. Son dernier ouvrage est très intéressant et permet de parce qu'au-delà de Galien, ça parle d'Hippocrate.
Ah oui, ça parle de la médecine de l'époque.
Et ça parle de la médecine de l'époque. Et donc, du coup, ça donne un horizon assez intéressant, visuel, pour voir à quel point, finalement, cette société romaine était quand même évoluée.
La médecine antique est très intéressante, parce que je suis acupuncteur. Et donc, l'acupuncture, en fait, la médecine chinoise provient certainement de la médecine grecque, de l'alchimie grecque. C'était une médecine alchimique, donc c'est extrêmement intéressant. C'est très, très, très intéressant. On devrait s'intéresser plus... Au niveau médical, ça nous apporterait beaucoup. Mais ça, c'est une parenthèse.
Voilà, vous avez donc cet ouvrage. N'hésitez pas, dans toutes les bonnes librairies, Véronique Boudon-Milleux, qui est vraiment...
Et bien évidemment, vos livres. Et
évidemment, mes livres, vous pouvez, sur les gladiateurs, chez Acta Édition.
Vous m'avez dit qu'on pouvait les avoir au Musée de la Romanité à Nîmes.
Alors oui, ils sont disponibles. On est partenaire du Musée de la Romanité. Donc, ils sont disponibles au Musée de la Romanité. Ceux pour le public adulte, plus chercheur, plus voilà. Et aussi la version enfant, puisqu'on a une version... pour les plus jeunes.
Eh bien, merci beaucoup à vous.
Merci.
Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce pour l'adhésion de Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.